Déjà, je vous transmets les salutations de l'Assemblée de Nîmes-Marguerite. Voilà, c'est sympa d'être juste à une heure d'ici et de pouvoir partager encore. Le Notre Père, c'est un modèle de prière qui est très important. Vous savez que la majorité de la chrétienté sur la surface du globe récite cette prière au moins une fois par semaine, à la messe, au culte. Et puis beaucoup de chrétiens la disent, cette prière, tous les jours. C'est assez minoritaire, je pense, chez les évangéliques. Je ne vais pas faire de sondage ce matin, mais j'aurais pu faire un sondage pour savoir combien de personnes disent cette prière de façon sur une base très régulière. Je pense que j'aurais pas eu beaucoup de mains levées, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose dans notre tradition. On va y revenir. Cette prière, elle est mentionnée à deux reprises dans les évangiles, dans deux contextes différents et avec une formulation un petit peu différente. Dans l'évangile de Matthieu, on la retrouve assez tôt dans le ministère de Jésus, au chapitre 6. Et c'est juste après les béatitudes, vous savez, ce sermon sur la montagne. Jésus monte sur la montagne, il y a des foules qui se rassemblent et puis il enseigne sur tout un tas de choses. Et il donne des bénédictions, heureux, heureux, heureux. Puis ensuite, il donne des enseignements sur un certain nombre de thèmes. Et un de ces thèmes majeurs, c'est la prière. Donc, on ne va pas tout lire, on va lire juste un petit passage de ce texte. Est-ce que ça fonctionne, le texte ? On peut afficher la deuxième slide ? Je ne sais pas si ça marche. C'est un peu sombre, hein. Ouais. J'ai pris un fond qui n'était pas blanc. Désolé, vous êtes obligé de prendre votre... Soit... Ça, c'est pas celui-ci, c'est la deuxième. Ouais. Bon, enfin bon. En tout cas, vous avez vos Bibles, donc vous allez pouvoir les ouvrir dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et on commence au verset 5. Lorsque vous priez, Jésus déjà ne dit pas si vous priez, hein, mais lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. C'est la glorification des hommes, cette récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans l'évangile de Luc, le Notre Père est donné, mais là, non pas comme dans le contexte d'un enseignement aux foules, mais en fait, simplement en petit comité avec les disciples. Et en plus, c'est à la demande d'un de ses disciples. Je ne sais pas si le disciple qui pose la question à Jésus, on va le lire, avait piscine le jour où il y avait le serment sur la montagne, où il était absent, ou bien pour quelle raison il repose cette question-là après avoir déjà entendu cet enseignement. Mais enfin, dans Luc 11, au verset 1, on lit que Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples s'approcha et lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Le texte s'arrête là. Pas le texte de ce matin, l'évangile continue bien sûr. Pour commencer, je voudrais dire que ça n'a pas toujours été facile pour moi de parler au sujet de ce modèle de prière de Jésus, du Notre Père. Je suis né dans une famille catholique, pas très pratiquante, mais suffisamment pour que je ne sache plus quand j'ai appris cette prière par cœur, le Notre Père. J'ai l'impression d'avoir toujours été capable de la réciter. Après ma conversion à l'âge de 18 ans, en fait, elle est même devenue cette prière comme une forme de handicap. Parce qu'à ce moment-là, une fois né de nouveau, j'ai vraiment appris à prier spontanément, à dire à Dieu ce que j'avais sur le cœur, à le louer, à intercéder avec mes propres mots, et plus à réciter des prières apprises par cœur. Pendant des décennies, le Notre Père n'a donc constitué pour moi qu'un vague modèle, inspirant certes, mais sa récitation m'était très difficile. Ça me semblait être quelque chose d'artificiel, de préfabriqué, de vide de sens profond et personnel. Ce n'est que depuis quelques années que j'ai pu en fait me réapproprier cette prière et réapprendre à la faire monter vers Dieu avec une profondeur insoupçonnée. Par le passé, j'avais l'habitude de dire que chez les évangéliques, on ne récite pas des prières toutes faites, mais on prie de façon spontanée. Or, il n'y a pas si longtemps, j'ai réalisé que c'était complètement faux, en fait, et qu'une grande partie de notre culte est composée de prières toutes faites, que nous répétons ensemble à l'unisson. Et oui, les chants que nous chantons pendant 30 à 45 minutes lors du culte, ce sont parfois des confessions de foi, mais ce sont le plus souvent des prières qui ont été composées par d'autres, que nous nous approprions et que nous chantons ensemble. Alors certes, ces prières toutes faites, entre guillemets, se posent sur des notes de musique, mais le principe est le même. Nous récitons ensemble des prières composées par d'autres, heureusement, et c'était le cas ce matin, souvent en citant les Écritures, mais pas toujours. Je reprends donc d'autant plus facilement à mon compte les paroles maintenant du Notre Père, sachant qu'elles ont été composées par le plus illustre des compositeurs, celui qui est le oint par excellence. Voilà, ça c'était ma petite touche personnelle avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet. Donc revenons à nos textes de ce matin. Je ne sais pas pourquoi il y a deux enseignements, un peu différents du Notre Père dans les évangiles. Est-ce que Jésus l'a vraiment enseigné dans deux contextes différents, avec des versions proches mais différentes? Ou bien est-ce la mémoire des deux écrivains bibliques qui les a mis dans un contexte différent? Difficile de le dire. En tout cas, la version que l'on trouve chez Luc, qui est encore affichée, cette version correspond très bien à celle retrouvée dans Matthieu. Elle se présente en fait comme une façon condensée. Alors je ne sais pas s'il y en a une qui a été faite pour Matthieu quand on a par Matthieu, ou redonnée par Matthieu quand on a du temps pour prier. Et puis celle de Luc, c'est le matin quand on va au boulot, qu'on n'a pas eu le temps de se brosser les dents, qu'on récite plus vite, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a vraiment une concordance entre les deux prières, heureusement. Une chose m'a interpellé, qui va faire former le premier point de mon message ce matin, avant qu'on puisse parcourir notre Père, c'est que Luc nous dit qu'un jour, je relis, Jésus priait en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Mais est-ce que vraiment les disciples ne savaient pas prier ? Pour qu'ils demandent d'être enseignés ? Les disciples de Jean-Baptiste également ne savaient-ils pas non plus prier pour que Jean le leur apprenne ? Certes, autant les disciples de Jésus que ceux de Jean n'étaient pas des érudits ni des membres de la classe dirigeante, très instruite, mais c'étaient tous des juifs. Ils avaient au moins été enseignés dans les bases de la Torah. Ils avaient été circoncis, Ils avaient appris les rudiments du judaïsme dans les synagogues. Ils étaient devenus adultes religieusement probablement vers 12-13 ans, dans une sorte de préfiguration de ce qu'on appelle maintenant la bar mitzvah dans le peuple juif, et que font tous les jeunes juifs aujourd'hui. En fait, ils savaient prier, car le culte dans les synagogues était déjà rythmé par des prières, très nombreuses, très importantes, en particulier pendant l'office du Shabbat. En fait, ces prières qui étaient récitées, répétées ou lues, plutôt répétées d'ailleurs, parce que tout le monde ne lisait pas, il n'y avait pas les carnets de prières ou de chants. Bon, maintenant, il n'y a plus ni carnet de prières ni de chants. Il y avait encore moins, donc c'était encore moins affiché sur l'écran. Mais en tout cas, ces prières qui étaient faites, elles avaient une histoire, en fait. Ces prières, elles avaient été formalisées au moins 450 ans avant Jésus, du temps d'Esdras et de ceux qui l'ont suivi, la grande assemblée. Les trois prières juives qui existent encore aujourd'hui, quotidiennes, existaient déjà aussi. Et les juifs la connaissaient. On se souvient de Daniel en exil à Babylone, loin du temple qui avait été détruit, loin des synagogues. Daniel qui priait trois fois par jour, nous est-il dit, montait s'isoler dans sa chambre, il mettait déjà en pratique l'enseignement de Jésus, et trois fois par jour il priait. Pourquoi ? Parce que c'était les trois prières habituelles du peuple juif. Il ouvrait la fenêtre, nous est-il dit, et il tournait en direction de Jérusalem. Il était seul, on va y revenir, mais il y avait un sens, une direction. Daniel, c'était environ 600 ans avant l'Évangile. Et tout le peuple juif était imprégné de cette pratique religieuse. Pourtant, en regardant Jésus prier, ses disciples semblent voir que, comme pour Jean-Baptiste, qui était prophète et j'allais dire en lien direct avec Dieu, il y avait, semble-t-il, quelque chose de plus dans leur prière. Est-ce que c'était une communion qui était perceptible par les disciples ? Est-ce que c'était une ferveur ? Aujourd'hui, on dirait, est-ce que c'était une onction particulière quand Jésus priait ? Je ne sais pas. Le texte ne le dit pas. Mais en tout cas, un disciple est interpellé et ose aller vers Jésus et lui dire « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors que va faire Jésus ? Va-t-il leur enseigner les secrets de la prière ? Ou bien est-ce qu'il va leur enseigner les trois étapes qui conduisent à une prière que Dieu agrée ? Ou bien va-t-il enfin leur donner les nouvelles formules qu'il faut employer pour plaire à Dieu ? En fait, c'est étonnant, mais Jésus va leur enseigner ce qu'ils savent déjà. Jésus va leur demander de dire ce qu'ils disent déjà. En effet, quand on regarde le Notre Père, on y voit juste le reflet des prières juives de l'époque. Aucune nouveauté, aucune innovation, rien de bien original. Quand on lit le Notre Père, un juif aujourd'hui pourrait le dire et le lire et dire Amen sans aucun problème. Alors pour préparer mon message, je suis allé voir un théologien très important. Peut-être vous le connaissez, théologien Wikipédia. Et j'ai trouvé une phrase intéressante sur le Notre Père, que je vous cite. Le Notre Père se compose de deux parties. Le Notre Père se compose de deux parties. Il présente au début des points communs avec le Kaddish juif. Le Kaddish, c'est la prière de sanctification du nom de Dieu. Puis il s'en écarte en reprenant des extraits d'autres textes juifs, notamment celui de la Amida. La Amida, à la synagogue, c'est une prière qui se fait debout. C'est le nom, Amida, ça veut dire debout. Et qui reprend en fait des prières de bénédiction, sauf que des bénédictions. Je termine ma citation là de ce théologien bien connu. En fait, il est assez juste, ce théologien. On retrouve effectivement dans le Notre Père des points communs importants avec le Kaddish et la Hamida, mais la réalité va plus loin, en fait, étonnamment. C'est ce que j'ai découvert récemment. Lorsqu'on regarde les textes historiques, extra-bibliques, juifs, on remarque que donc depuis Esdras et la Grande Assemblée, l'office des prières à la synagogue était composé de trois parties. Ces trois parties sont inspirées des prières qui étaient faites au temple, mais qui ont été transférées dans les synagogues lorsque le premier temple a été détruit. D'ailleurs, une parenthèse, cette destruction du temple, elle est remémorée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un dimanche, c'est une date, c'est la date de la destruction du premier temple et du deuxième temple. Et tout le peuple juif, les pratiquants, bien sûr, jeûnent aujourd'hui en souvenir et en deuil de cette destruction des deux temples. Donc les trois parties des prières qui étaient faites, elles comportaient donc une partie de sanctification de Dieu et de son règne, un temps de prière qui était assez long, et puis il y avait une partie pour les besoins quotidiens, beaucoup plus terre-à-terre, qui était une partie courte, et puis enfin une troisième partie qui était plus orientée sur le mal, la repentance, sur le pardon des péchés. Et de nouveau, c'était une partie assez longue. Lorsqu'on met en parallèle ce modèle avec le Notre Père, ou le Notre Père avec ce modèle, en fait, on y retrouve exactement la même structure. C'est d'autant plus visible chez Luc, qui ne rajoute pas la conclusion de Matthieu, mais on trouve la sanctification de Dieu et de son règne, la première partie, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va ensuite dans une petite partie, plus petite, qui concerne les besoins plus terre à terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis ensuite, une troisième partie, plus longue, à nouveau, qui concerne la repentance, le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le secret de la façon de prier de Jésus ne résidait donc pas dans les formulations employées, mais dans l'intention, sans doute, dans la relation que Jésus entretenait avec son Père, dans le sens profond qu'il donnait aux mots. Il leur a dit, ne rabâchez pas comme les païens qui s'imaginent qu'en disant des mots, ils vont être exaucés. Mais le cœur qu'on y met dedans, dans ces mots, dans ces phrases. En fait, je pense que les disciples, les apôtres n'ont vraiment compris cela et expérimenté cela, cette dimension, qu'après la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu, quand ils ont été remplis d'Esprit et que cette communion avec Dieu a été décuplée dans une profondeur importante. Voilà, nous sommes maintenant prêts pour entrer un peu plus dans la prière de Jésus. Chacun des points de la prière mériterait au moins un message à lui tout seul. Mais nous allons essayer de tirer quelques enseignements utiles en survolant les diverses phrases de la prière, afin que lorsque nous la prierons, nous soyons enracinés. Si nous la prions, si vous en avez l'envie. Que nous soyons enracinés et que nous ayons tout ça et aussi l'origine d'où ça vient. Mathieu disait tout à l'heure, on ne vient pas de nulle part, on a des racines. Eh bien, nous aussi, en tant que chrétiens, on a des racines. Et elles viennent de bien loin, je vous en ai donné une petite partie là. Mais combien c'est intéressant de voir cette profondeur et que nous sommes les dépositaires de quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse. Alors, on va parler d'abord de la partie longue, la première partie longue. Et Jésus commence en disant « Notre ». Notre. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas faire la prière mot par mot, parce que sinon on y est encore demain, et ce n'est pas férié, donc et je ne suis pas en vacances. Jésus commence par dire « notre ». Et c'est d'autant plus paradoxal qu'il dise « notre », parce qu'en fait, quand on reprend le texte, il dit « entre dans ta chambre, prie ton Père, et alors tu dis « notre ». Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Il dit, tu entres dans ta chambre, tu pries ton Père, Et quand tu ouvres ta bouche, tu dis « Notre ». C'est intéressant. Ça a du sens. En fait, dans l'enseignement des Écritures, la prière n'est jamais seulement individuelle. La prière est toujours reliée. Alors, reliée à Dieu, bien sûr. C'est le but même. Mais reliée aussi aux autres. De la même façon, je l'ai dit tout à l'heure, que Daniel montait seul dans sa chambre. Il était en exil, dans un contexte idolâtre. Et quand il priait, il montait dans sa chambre, il fermait sa porte, il ouvrait la fenêtre, dirigé vers Jérusalem, j'allais dire vers l'Est, mais en fait non, depuis la Babylonie, ce n'était pas vers l'Est, vers Jérusalem, et en exil, il faisait ses trois prières tournées vers Jérusalem. Il était en lien, il priait seul, mais il disait déjà « notre ». Et d'ailleurs, quand vous reprenez les prières de Daniel, et notamment la prière de confession, il va dire tout le temps « notre », « notre péché ». Il ne veut pas dire « son péché », parce que lui-même n'en faisait pas partie de ce péché du peuple qui avait amené à l'exil, mais il va le prendre pour lui, il va se sentir solidaire de tout le peuple. Donc, tourner vers Jérusalem. De la même façon que les prières du peuple juif se faisaient tourner vers le temple, quand il existait encore, et en lien avec le temple. De la même façon que toutes les synagogues aujourd'hui, pratiquement, sont orientées vers Jérusalem. Et que beaucoup d'églises catholiques aussi, d'ailleurs. Donc, il y a toujours cette notion de lien qui est là. Tu entres dans ta chambre, tu pries ton Père, mais tu dis notre. Nous aussi, même seuls dans notre chambre, nos prières sont reliées. Elles sont reliées aussi au cœur, au corps, au peuple de Dieu, à l'Église. En fait, on prie en solidarité les uns avec les autres. Et quand tu pries toi tout seul, c'est l'Église qui prie. C'est important de se souvenir que Jésus a dit « notre ». Nous sommes une communauté. Vous êtes ici une communauté. Et même isolés, nous sommes reliés par un fil, un lien spirituel qui n'est pas non moins existant que s'il était visible. Nous sommes un corps, bien que dispersé. Quand je prie seul, je dois toujours avoir conscience de l'autre. Ensuite, Jésus va dire « Père ». Dans le christianisme, on s'est parfois posé la question de qui l'on doit prier. Je vous ai parlé du Notre Père que j'ai appris étant enfant, mais ce n'est pas la seule prière que j'ai apprise. J'ai aussi, de la même façon, appris le « Je vous salue Marie » et d'autres. Je vous ferai la grâce de le réciter ce matin. Ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas le but, même si ce sont des paroles inspirées aussi de l'Évangile. Mais Jésus nous invite ici et nous indique qui il faut prier. Quand vous priez, dites notre Père. Il nous faut prier le Père quand nous prions. Le Père, son Père et notre Père. C'est un point sur lequel je ne m'attarderai pas, mais le Nouveau Testament nous enseigne en fait à prier le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Je le redis juste parce que je n'insisterai pas, mais c'est vrai que dans le Nouveau Testament, regardez toutes les prières des apôtres, etc., le Nouveau Testament nous enseigne à prier le Père au nom de son Fils Jésus, c'est-à-dire avec ses mérites, avec la puissance de son nom, et par le Saint-Esprit, en étant rempli de l'Esprit, ou conduit par l'Esprit. Je vais m'arrêter un peu plus sur l'expression plus globale, notre Père qui est aux cieux. J'aime beaucoup cette expression, Père qui est aux cieux. Elle est puissante, mais elle est aussi paradoxale. Comme tout à l'heure, le « entre dans ta chambre et prie notre Père », là aussi, il y a un paradoxe. Notre Père qui est aux cieux. D'abord, Jésus, à la suite de l'enseignement du Premier Testament, nous dit de parler à notre Père. Et ça, on pourrait en parler longuement et on en parle régulièrement, et je le sais aussi dans cette Église. Quand on parle de notre Père, de notre Papa céleste, de notre Papa, Père, ça dénote une proximité, une affection, une familiarité. Un père, selon Dieu, c'est quelqu'un de proche de ses enfants, quelqu'un qui a l'écoute, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est là. C'est celui qui accueille et c'est celui qui est accessible. Mais dans la même expression, Jésus introduit un paradoxe, une notion de distance. Autant le Notre Père, on est là, j'allais dire presque couponné dans les bras du Père, et puis il dit « qui est aux cieux ?» Et Jésus introduit une notion de distance. C'est ton Père, oui, mais il est aussi dans les réalités célestes. Ces réalités célestes, elles nous dépassent. Dans le « qui est aux cieux ?», je voudrais lire comment Paul le décrit, ce Père, dans 1 Timothée 6, 15. Il nous décrit le Père en nous parlant, en nous disant le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Mais Paul, tu as rencontré Dieu, tu le connais personnellement, tu as une communion comme chacun de nous peut-être serait jaloux d'avoir. Non, Paul décrit le Père en disant que c'est lui seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Waouh ! Ça donne un petit peu ce contraste encore plus fort de notre Père tout proche, mais qui est aux cieux et qui est vraiment, qui a une autre dimension. L'approche de Dieu, selon la Bible, elle se fait à la fois avec amour et avec crainte, pas avec peur. Oui, Dieu est ton père, mais c'est pas ton petit copain, on a l'habitude de dire. Oui, tu peux le connaître comme un fils ou une fille connaît son père, mais il y a des dimensions chez lui que tu ne peux pas saisir et qui t'échappent, car Dieu est au ciel. Ce que Jésus dit. Et il fait ce qu'il veut. Je vous cite le psaume 115, là. Donc Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ça sous-entend sa souveraineté, sa dimension, ses questions. Comme Matthieu disait tout à l'heure dans la louange, il y a des choses, oui, Dieu est bon, mais c'est qu'on a des questions, il y a des interrogations. Et puis... je cherche, j'ai sauté ma ligne. Ou encore, il est dit, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Encore cette notion de distance, de différence. Comme dit l'Ecclésiaste au chapitre 5, ça je vous ai cité l'Ecclésiaste, chapitre 5. Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Je dirais donc, vis-à-vis de Dieu, intimité et respect. Proximité et distance. Connivence et incompréhension. Elle est là, notre relation à Dieu. Et c'est passionnant, car on peut être dans la confiance vis-à-vis du Père, et en même temps, on n'a jamais fini d'explorer la divinité et de tout comprendre. On arrive d'ailleurs là à un des sommets de la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Je veux m'y arrêter un instant parce que c'est capital et c'est un peu difficile à expliquer et à comprendre pour un chrétien d'ailleurs plus que pour un juif parce que ça ne fait pas vraiment partie de notre tradition. Que ton nom soit sanctifié. Si je vous demandais de m'expliquer cette phrase. Ça fait partie de ces dimensions de la foi chrétienne qui ont été, je dirais, un peu déjudaïsées. Or, la judéité de Jésus, elle ressort très fort à cet endroit. Cette culture qui était la sienne. Cette expression « que ton nom soit sanctifié », elle prolonge et elle explicite un petit peu l'incompréhensible de la dimension du Dieu qui siège dans les réalités célestes. Que signifie sanctifié ? Bibliquement, en hébreu, je pense que beaucoup le savent, c'est « kadosh ». Au sens propre, Kadosh, ça veut dire séparé, à part, sanctifié, on va le traduire comme ça. Et ça veut dire séparé, C'est différent. Je voudrais donner une analogie susceptible de nous éclairer un petit peu, nous donner un petit indice. Même si j'avais une proximité avec mon père terrestre, je ne l'ai jamais appelé André. J'ai toujours dit papa. Même si nos quatre enfants sont proches de nous, ils ne nous appellent jamais Cathy et Joël. Mais papa et maman, maman et papa. Ainsi, ça peut sembler paradoxal que Jésus nous invite à nous adresser à Dieu en disant « Père, Papa », puis nous invite à sanctifier son nom, sans jamais le prononcer. C'est un fait, dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, jamais, ni Jésus, ni aucun des apôtres, aucun des disciples, aucun des auteurs du Nouveau Testament n'a prononcé, ou en tout cas n'a écrit, le nom du Père. Le tétragramme. Ça, je pense que tétragramme, il y a une slide avec ça, si c'est possible de la mettre. Voilà, il est en haut à droite de l'écran. Donc c'est le tétragramme. Tétragramme, ça veut dire que c'est fait de quatre lettres. Le Yud, le He, le Vav et le He. Et c'est le nom de Dieu qui est écrit dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau, à chaque fois qu'ils auraient dû le prononcer, ils le substituent. Ils mettent Seigneur. C'est aussi pourquoi nos Bibles, à l'emplacement du tétragramme, mettent l'Éternel. Ce n'est pas une traduction. C'est une approche un petit peu, mais c'est fait en fait pour ne pas prononcer ce nom. D'abord qu'on ne sait pas vraiment prononcer parce qu'on ne connaît pas les vraies voyelles. Qu'il y avait, vous savez qu'en hébreu, ça sont les consonnes, mais il n'y a pas les voyelles. Donc on a des approches du nom, mais on ne les connaît pas vraiment. Et en fait, dans cette tradition dans laquelle Jésus s'inscrit aussi, et les apôtres après lui, eh bien en fait, ce nom de Dieu sanctifié, c'est un nom à part. Ça nous parle, ce nom, il y a beaucoup de choses, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est ce nom qui représente ce Dieu qui est immensément grand, et qui nous dépasse complètement. Il y a cette notion de sainteté, et donc de révérence. La sanctification du nom est un signe important dans le judaïsme de toujours, avant, pendant et même après Jésus. C'est le signe que l'on reconnaît la grandeur de Dieu, sa différence, sa mise à part, sa séparation. Et c'est vrai qu'on peut être à la fois proche et uni, et séparé et distant. Cette sanctification de Dieu, du Père, est tellement importante qu'il y a quatre êtres vivants dans le ciel, les séraphins, dont l'une des principales missions de toute éternité, c'est de répéter sans cesse « Kadosh, 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 Adonai Tsevaot »« Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Vous connaissez cette phrase, on la chante souvent. Eh bien, il y a des êtres célestes très élevés dont la mission c'est de sanctifier le nom de Dieu. Cette sanctification du nom imprononçable est un des marqueurs forts du monothéisme. Que ton règne vienne, alors que la prière a commencé avec la proximité d'un Dieu qu'on appelle Père, puis qu'elle a continué en mettant de la distance avec ce Dieu qui est au ciel, puis qu'elle a approfondi cette distance par la séparation du nom divin, il y a maintenant comme un début de retournement, une espérance, que ton règne vienne, la venue du règne de Dieu. Ailleurs, dans l'Évangile, Jésus va dire qu'avec sa venue, avec les paroles qu'il a prononcées, avec les actes qu'il a accomplis, notamment les miracles, mais pas que, il va dire, eh bien, le royaume de Dieu s'est approché. Mais s'il s'est approché, il n'est pas encore pleinement là. Il y a beaucoup de choses qui nous le disent. On a déjà beaucoup enseigné dans nos églises sur le déjà et le pas encore du royaume de Dieu. Donc je ne vais pas m'attarder non plus. L'Épître aux Hébreux va dire que nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Alors c'est une espérance, c'est une attente, celle de l'établissement du règne de Dieu et de son Messie lors de sa venue prochaine. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. c'est en fait la concrétisation de la phrase précédente. Le règne qui vient, comment va se manifester le règne qui vient? Eh bien, enfin, la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme elle l'est dans le ciel. Le règne de Dieu, c'est quand la volonté de Dieu est faite parfaitement. Et à ce moment-là, ce sera fait parfaitement sur la terre, en union avec le ciel, en union avec les réalités célestes. Ce sera lorsque la Jérusalem d'en haut descendra pour rejoindre la Jérusalem d'en bas, comme dit Apocalypse 3:12. Jésus nous demande de prier pour cela, de prier pour cette espérance et de l'attendre. Nous pouvons hâter donc cette venue par la prière, mais bien sûr on le sait, mais c'est un autre sujet, en faisant d'autres choses aussi, en continuant la mission que Jésus nous a confiée. La partie 2 de la prière, elle est courte. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il est clair que le manger, le boire, le vêtir et l'habitat sont essentiels à notre vie. Jésus dit cependant ailleurs de ne pas trop s'en préoccuper. Et à l'image des prières du culte synagogal, ces besoins primaires, même placés au cœur de la prière, donc ils sont au cœur de la prière, donc ils sont importants, mais ne doivent donc pas être oubliés. Mais ce ne sont pas les sujets sur lesquels Jésus nous demande de nous attarder. Votre Père nourrit les petits oiseaux, etc. Combien plus forte raison. Donc je ne m'arrête pas non plus. Je rappellerai juste la fidélité de Dieu à la suite du psalmiste qui s'exclame « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Psaume 37, 25. Et on entre donc dans la troisième longue partie, mais qui sera plus courte, qui sera assez courte. La longue partie de la prière, qui est cette prière donc, qui correspond, donc, comme je vous disais, au culte institué du temps d'Esdras et de la Grande Assemblée, cette prière sur le mal, sur le pardon, etc. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comment ? Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une prière étonnante que celle de dire à Dieu, « Bon, écoute Seigneur, comme moi j'ai agi vis-à-vis des autres, s'il te plaît, fais-le pour moi. » Je ne sais pas si on est capable de vraiment dire ça. « Seigneur, comme je traite les autres, traite-moi. » Nous, on est plutôt là à supplier la grâce. « Seigneur, tu sais où j'en suis. » Mais Jésus nous enseigne à prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. À un autre endroit dans l'enseignement sur la prière, il va dire, si vous ne pardonnez pas aux autres, Dieu vous ne pardonnera pas non plus. Waouh ! C'est costaud quand même, hein ? Il y a une autre traduction possible de ce pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, c'est remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à ceux qui nous devaient. Il est alors question de notre façon de gérer l'argent, de notre générosité et de la façon, en fait, dont on fait grâce aux autres. On ne demande donc plus ici à Dieu de nous faire grâce selon sa miséricorde et sa bonté, mais selon l'exemple et la justice que l'on a nous-mêmes manifestée aux autres. En fait, il ne peut pas s'agir ici de la remise en question de notre statut d'enfant de Dieu, par la foi, dans l'œuvre réalisée à la croix. Mais Jésus insiste sur le fait que nos actes comptent. Nos bonnes actions nous donnent de l'assurance devant Dieu pour lui demander d'agir à notre égard comme nous avons agi avec les autres. Seigneur, tu vois un tel, une telle, je l'ai pardonné. Tu vois, il me devait ça, j'ai effacé la dette. Seigneur, fais-le pour moi. Ça donne une autre assurance que simplement celle de la grâce, mais c'est dans l'évangile aussi. C'est une belle chose. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Vous savez que dans le grec du Nouveau Testament, le mot tentation, c'est exactement le même mot que épreuve. On pourrait traduire épreuve, tentation, c'est la même chose. Dans cette phrase, le mot tentation donc est le même que mot épreuve, et donc ça nous parle autant de la tentation du péché que de l'épreuve qui nous arrive. Et nous sommes invités à prier pour que Dieu ne nous amène pas ou ne nous laisse pas aller sur ces chemins difficiles. de l'épreuve et de la tentation. Oui, l'Écriture nous enseigne que c'est Dieu qui peut nous garder debout et nous relever si nous sommes tombés dans le péché ou si nous avons failli dans l'épreuve. Oui, la Bible dit que parfois, l'épreuve est un test pour voir ce que nous avons dans le ventre, pour nous fortifier, comme David qui, avant de tuer Goliath, avait appris à combattre les ours et les lions. De la même façon, l'épreuve est parfois, pas toujours, mais parfois, parce que parfois, on ne sait pas, mais parfois, elle a le sens de nous fortifier, de nous tester, de nous rendre plus forts. Les épreuves et les tentations sont bien souvent aussi les révélateurs de nos faiblesses et de notre besoin de la grâce de Dieu. Et la conclusion chez Matthieu, elle boucle la boucle en fait. Nous reconnaissons que c'est au Père et non à nous qu'appartiennent de toute éternité dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà une prière complète que je vous encourage finalement à revisiter avec tout cet arrière-plan et puisque vous-même vous pourrez méditer à ce sujet et puis peut-être la remémorer, pourquoi pas de la prononcer pour non pas comme une vaine redite, mais comme une prière qui a une profondeur infinie. Amen.